des volte-face d'un lendemain déloyal et insaisissable. Je ne lui connaissais pas d'amis. Nous vivions reclus sur notre lopin de terre, pareils à des spectres livrés à eux-mêmes, dans le silence sidéral de ceux qui n'ont pas grand-chose à se dire. Ma mère, à l'ombre de son taudis ployé sur son chaudron, remuant machinalement un bouillon à base de tubercules aux saveurs discutables. Zara, ma cadette de 3 ans, oubliée au fond d'une encoignure, si discrète que souvent ne s'apercevait pas de sa présence. Et moi, garçonnet malingre et solitaire, à peine éclos que déjà fané, portant mes 10 ans comme autant de fardeaux. Ce n'était pas une vie. On existait, et c'est tout. Le fait de se réveiller le matin relevait du miracle, et la nuit, lorsqu'on s'apprêtait à dormir, on se demandait s'il n'était pas raisonnable de fermer les yeux pour de bon, convaincu d'avoir fait le tour des choses et qu'elles ne valaient pas la peine que l'on s'attardât dessus. Les jours se ressemblaient désespérément. Il n'apportait jamais rien, ne faisait en partant que nous déposséder de nos rares illusions qui pendouillaient au bout de notre nez, semblables aux carottes qui font avancer les baudets. En ces années 1930, la misère et les épidémies décimaient les familles et le cheptel avec une incroyable perversité, contraignant les rescapés à l'exode, sinon à la clochardisation. Nos rares parents ne donnaient plus signe de vie. Quant aux loques qui se silhouettaient au loin, nous étions certains qu'elle ne faisait que passer en coup de vent. Le sentier qui traînait ses ornières jusqu'à notre gourbier était en passe de s'effacer. Mon père n'en avait cure. Il aimait être seul, arc-bouté contre sa charrue, les lèvres blanches d'écume. Parfois je le confondais avec quelque divinité réinventant son monde, et je restais des heures entières à l'observer, fasciné par sa robustesse et son acharnement. Lorsque ma mère me chargeait de lui porter son repas, je n'avais pas intérêt à traîner. Mon père mangeait à l'heure, frugalement, pressé de se remettre au travail. Moi, j'aurais aimé qu'il me dît un mot affectueux ou qu'il me prêtât attention une minute. Mon père n'avait Dieu que pour ses terres. Ce n'était qu'à cet endroit, au milieu de son univers blond, qu'il était dans son élément. Rien ni personne, pas même ses êtres les plus chers, n'était en mesure de l'en distraire. Le soir, en regagnant notre taudis, l'éclat de ses yeux se tempérait avec le coucher du soleil. Il était quelqu'un d'autre, un être quelconque, sans attrait et sans intérêt. Il me décevait presque. Mais depuis quelques semaines, il était aux anges. La moisson s'annonçait excellente, dépassait ses prévisions. Criblé de dettes, il avait hypothéqué la terre ancestrale et savait qu'il livrait son ultime combat, qu'il engageait sa dernière cartouche. Il se défonçait comme 10, sans relâche, la rage au ventre. Le ciel immaculé l'effarouchait. Le moindre petit nuage l'électrisait. Je ne l'avais jamais vu prier et se dépenser avec autant d'entêtement. Et quand vint l'été et que le blé recouvrit la plaine de paillettes étincelantes, mon père prit place sur le tas de pierres et ne bougea plus. Recroquevillé sous son chapeau d'alpha, il passait le plus clair de ses journées à contempler la récolte qui, après tant d'années d'ingratitude et de vaches maigres, promettait enfin un soupçon d'éclaircie. Les moissons étaient pour bientôt. Plus elles approchaient, moins mon père gardait son calme. Il se voyait déjà faucher ses gerbes à tour de bras, botteler ses projets par centaines et engranger ses espérances à ne savoir qu'en faire. Une petite semaine plus tôt, il m'avait installé à côté de lui sur la charrette et nous nous étions rendus au village à quelques encablures derrière la colline. D'habitude, il ne m'emmenait nulle part. Peut-être avait-il pensé que les choses étaient en train de s'améliorer et qu'il fallait réajuster nos manières et nous découvrir de nouveaux réflexes, une nouvelle mentalité. En cours de route, il s'était mis à fredonner un air bédouin. C'était la première fois de ma vie que je l'entendais chanter. Sa voix partait dans tous les sens, fausse à faire fuir un canasson. Pour moi, c'était la fête. Un baryton ne lui arriverait pas à la cheville. Tout de suite, il s'était ressaisi, surpris de s'être laissé aller, voire honteux de se donner en spectacle devant son rejeton. Le village ne disait rien qui vaille. C'était un trou perdu, triste à crever, avec ses bicoques en torchis craquelés sous le poids des misères et ses ruelles désemparées qui ne savaient où courir cacher leur laideur. Quelques arbres squelettiques se faisaient bouffer par les chèvres, debout dans leur martyre, tels des gibets. Accroupis à leurs pieds, les désœuvrés n'en menaient pas large. On aurait dit des épouvantails désaffectés, abandonnés là jusqu'à ce que les tornades les dispersent dans la nature. Mon père avait arrêté la charrette devant une échoppe hideuse.